13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette journée où on parle de santé. Nous allons parler de violences sexuelles aujourd'hui avec Nadia Elbouga. Bonjour Nadia.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Vous allez bien Nadia, nous avons changé un petit peu notre planning cette semaine, vous voyez.
Oui, tout
comme
à
quoi
fait.
C'est pour répondre à l'actualité. On dit un mot sur les Toulousains ou pas?
Non, laissons les Toulousains tranquilles.
Vous aimez les Toulousains,
oui,
Nadia.
J'aime tout le monde.
Notre invitée s'appelle Sandrine Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Beurre FM. Vous êtes secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler de votre livre qui s'appelle Parler, justement. C'est votre histoire aux éditions Flammarion, et vous dites parler, oui, mais encore faut-il être entendu.
Mais c'est tout le cœur du sujet, c'est que les femmes parlent, très souvent elles parlent, c'est assez rare, les femmes qui gardent tout pour elles, en général elles en parlent à des gens de confiance autour d'elles, des amis, de la famille, des collègues, mais on a du mal à entendre et on a surtout du mal à recevoir la gravité de ces faits, c'est-à-dire qu'en général on considère que c'est quelque chose de pas très grave alors que ça peut bouleverser la vie de femmes.
Alors, dans un parti politique, on ne dit pas agression sexuelle, mais on utilise un comportement déplacé d'un cadre de notre parti. Et encore, qu'il faille expliquer ce que c'est qu'un comportement déplacé. C'est une expression qui peut, et un terme qui peut ne pas toujours être compris.
Mais c'est pas un comportement déplacé, c'est un comportement qui est sanctionnable par la justice. Donc,
d'accord, mais vous, on n'a pas parlé de...
Non, mais...
On a dit de comportement déplacé d'un cadre.
Mais c'est très souvent ce qu'on dit aux femmes, c'est-à-dire que oui, c'est quelque chose... c'est un comportement déplacé. Non, c'est quelque chose qui est qui relève de la justice et qui relève de 5 ans de prison. Hein. Une agression sexuelle, c'est 5 ans de prison, donc c'est pas un petit délit. Et donc, il faut prendre ça pour ce que c'est, un délit. Et c'est important de le prendre pour ce que c'est, parce que ça dit derrière que les femmes ont toute leur place dans la société. Moi, j'insiste vraiment là-dessus, mais quand on ne sanctionne pas les agressions sexuelles, le harcèlement, etc., en fait, on envoie le message aux femmes que ce qu'elles subissent, c'est normal, et que donc leur place dans la société n'est pas celle des hommes, et ça, pour moi, c'est inacceptable.
Mais au-delà de ne pas en parler, déjà, on commence par ne pas les nommer.
On commence par ne pas les nommer tout
déjà,
à fait.
Déjà, on dit
tout
comportement déplacé. Vous voyez, un comportement déplacé, c'est pas mal de choses. Je vais essayer de ne pas vous poser les questions auxquelles vous avez dû répondre et que vous auriez préféré qu'on ne vous pose pas. Par exemple, la première, c'est pourquoi vous n'avez jamais parlé, et vous dites que vous auriez préféré qu'on vous pose une autre question, c'est qui vous a écouté?
C'est le sujet, c'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, les femmes parlent. La question, c'est qui les entend et qu'est-ce qu'on fait pour les soutenir dans leurs paroles, c'est-à-dire pour les accompagner. Parce que ce qui se passe aussi souvent, c'est que on parle et puis les gens oublient la minute d'après ce qu'on leur a dit. C'est-à-dire que les gens rentrent dans leur vie normale et nous, on est là avec ce qu'on a raconté et puis quelque part, on l'a sur les bras. Alors que justement, les personnes à qui on a parlé ont désormais, mais à partir du moment où on leur a dit, une forme de responsabilité qui est d'accompagner les femmes vers le dépôt de plainte pour que justice fasse. Je rappelle un chiffre qui pour moi dit tout du problème, c'est qu'il n'y a que 10% des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles ou de viols qui portent plainte. Ça veut dire qu'il y en a 9 sur 10 qui ne déposent jamais plainte. Et sur les femmes qui déposent plainte, il n'y aura que une plainte sur 9 qui sera poursuivie par une sanction pour l'agresseur ou le violeur. Donc ça veut dire qu'on est dans un très grave problème de société.
Et c'est très juste ce que dit Sandrine Rousseau, parce que moi ce que je relève dans le livre, et c'est ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'en fait le silence laisse croire à l'agresseur en fait qu'il a tous les droits, c'est-à-dire que finalement il peut se permettre non seulement de continuer dans ces actes vraiment lamentables, mais aussi de parfois s'en vanter, c'est-à-dire présenter les choses comme étant, et c'est d'ailleurs probablement pour ça que c'est présenté par le reste de la société comme étant des gestes déplacés, parce qu'en fait ça finit par banaliser les agressions sexuelles, donc que ce soit les attouchements, les gestes, enfin les paroles, les insinuations, parce que ça fait aussi partie d'une agression. C'est pas forcément physique, ça peut être aussi, et ça rentre dans le cadre du harcèlement, on a déjà fait une émission là-dessus. Donc c'est très vicieux parce que l'agresseur finit par finalement paraître banal
et se convaincre que son comportement est tout à fait normal.
Exactement, et convaincre les autres. Le pire est là, c'est-à-dire finalement la société finit par mettre le mouchoir là-dessus parce que au final, bon, bah c'est pas aussi grave que ça. Alors moi, c'est ce que je constate sur le terrain, c'est-à-dire que on banalise les agressions sexuelles. On a mis, alors attention à ce que je dis, je suis pas en train de faire faire un comparatif, mais on a mis en avant en fait les problématiques de viol et on a délaissé les agressions sexuelles en pensant en fait que bah, finalement s'il n'y a pas eu viol, c'est pas bien grave. C'est ce qui circule dans l'imaginaire collectif. Hein. Mmh.
Et les femmes qui sont violées ne portent pas beaucoup plus plainte. Hein.
Non. Mais là, l'émission dure une heure aujourd'hui. Durant l'heure de cette émission, 20 femmes en France seront violées, par exemple. Et sur ces 20 femmes, seules 2 porteront plainte. Et sur les 2, elles ont toutes les chances que leur agresseur ne soit jamais poursuivi par la justice. Donc, vous voyez, c'est pas un sujet léger, ça c'est sûr. Et pour nos auditeurs et auditrices, je comprends que ce soit pas simple. Mais il faut entendre ces chiffres parce qu'il faut regarder ce problème en face et trouver des solutions. Et dans les solutions, il y a le fait d'en parler, de déposer plainte et de donner à la justice la responsabilité de trancher.
Donc vous avez parlé, vous avez dit ce qui s'était passé, on ne vous a pas entendu. Alors vous êtes posé la question, à un moment donné, c'est ce que vous racontez dans votre livre, c'est est-ce qu'on aurait pu régler ce problème en amont ? C'est toujours pareil, on peut régler ça en soum-soum.
Oui, alors c'est vrai que le premier réflexe que j'ai eu était de régler ça en quelque sorte en famille, mais en fait ça ne règle rien. C'est-à-dire que ça, je suis très persuadée aujourd'hui que ça n'aurait rien réglé. Et d'ailleurs, la rumeur dit que Denis Baupin, en l'occurrence, a déjà eu des alertes.
Faut mettre des bips quand on prononce son nom.
Voilà.
Je mettrai le bip.
Il a eu des alertes. Donc, le règlement en famille, en fait, ne résout rien. Il faut, à un moment donné, passer à la vitesse.
Il faut mettre vraiment le pied dans le plat.
Et c'est pour ça que je crée une association qui s'appelle Parler aussi, pour que les femmes qui ont subi des agressions sexuelles, des viols ou du harcèlement, puissent avoir un lieu où elles rencontrent d'autres femmes qui sont passées par là et qu'on puisse les accompagner si elles décident de porter plainte un jour, qu'on puisse les accompagner au commissariat, prendre un thé ou un café avec elles, les attendre à la fin, les accompagner dans le commissariat aussi si elles le souhaitent, et puis faire des repas conviviaux pour qu'on se détende un peu autour de ça et qu'on échange nos expériences, parce qu'on a toujours l'impression que notre expérience est unique et en fait on s'aperçoit qu'elle est très très partagée.
Oui, et ce que cet événement aussi indique, c'est que ça touche toutes les classes sociales et tous les milieux professionnels, parce que là en l'occurrence on est dans le milieu de la politique. Il faut savoir que la parole de Sandrine Rousseau et de ses trois collègues qui ont d'ailleurs écrit la préface, une très belle préface du livre, s'en est suivie après une tribune dans le JDD de plusieurs femmes politiques qui sont montées au créneau. Donc c'est bien la preuve qu'effectivement une parole peut en délier plusieurs autres, en libérer plusieurs autres. Ce que ça démontre, c'est qu'effectivement, le fait qu'il y ait ces femmes politiques qui réagissent a posteriori, en groupe, hein, parce que il y a cette nécessité aussi, enfin moi ça m'a vraiment sauté aux yeux, de voir que en tant que femme, on est obligé en fait de se constituer finalement en groupe pour dénoncer quelque chose qui est comme ça connu et pratiqué sans que c'est gêné personne. Donc les femmes réagissent et d'où l'intérêt justement du livre de Sandrine Rousseau, parce que les femmes s'autorisent ou s'autoriseront à réagir parce que maintenant des femmes qui appartiennent à certaines élites, hein, il faut le dire, maintenant dénoncent ce problème-là. Et ce n'est pas uniquement une problématique des femmes en situation de précarité comme on peut l'entendre par ailleurs.
Non, ça touche tout le monde.
Vous êtes une femme politique, vous êtes quelqu'un qui prend la parole, qui a l'habitude de prendre la parole en public, vous n'êtes pas une timide.
Non.
Bon, est-ce que vous avez compris pourquoi, puisque c'est pas vous qui posez la question, mais c'est un journaliste qui a enquêté, qui a dit, mais pourquoi est-ce que c'est tellement compliqué pour vous d'en parler? Est-ce que vous avez réussi à comprendre pourquoi, vous qui avez l'habitude de prendre la parole sur plein de sujets, vous avez eu des difficultés à parler de ce que vous étiez arrivé?
Oui, j'ai compris, mais sur le moment, je n'en étais pas consciente. Mais je l'ai compris après. Alors, ce qui m'a empêchée de parler, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que je savais que si je parlais, enfin, je ressentais très fortement que si je parlais, j'ai parlé tout de suite. Hein, déjà, j'ai parlé.
Vous avez parlé à votre compagnon de l'époque.
Mais enfin, même à la personne qui était à côté de moi à la tribune dans les instants qui ont suivi l'agression. Donc vraiment, j'ai parlé. Ceci dit, pourquoi je ne suis pas allée déposer plainte? Pour plein de raisons. La première, c'est que je ne souhaitais pas que lui gagne, c'est en quelque sorte. C'est-à-dire que si je dénonçais à la police, je savais que entre lui qui était un cadre du parti ancien, qui avait du poids dans le parti, et moi qui venais juste d'arriver, il était évident que ce serait lui qui resterait pour les négociations, parce qu'on était en phase de négociation.
Donc là, c'était pour les présidentielles. Donc,
voilà, et bon, c'était
un moment politique important.
Voilà, donc ça, je ne voulais pas lui laisser la place, je ne voulais pas qu'il ait ma peau politique, en quelque sorte. Et puis après, il y a tout un tas de conseils qu'on donne aux femmes agressées, qui sont des conseils qui, en fait, font taire les femmes. Alors, ces conseils, c'est... prends soin de toi, fais attention, il est puissant, fais attention à toi. Mais pourquoi tu lui as pas mis une baffe? Pourquoi tu l'as pas repoussé au moment où il le faisait? Et tous ces conseils-là, en fait, font peser le poids de la responsabilité sur la personne qui est victime. Et c'est vraiment très puissant comme facteur et comme moteur pour ne pas parler.
Il y a des gens qui vous demandaient comment vous alliez, par exemple, comment tu t'es senti, comment tu vas, tout simplement ça. Mais est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une personne qui, à un moment donné, vous dit, et toi alors, finalement, ça va?
Non, je ne crois pas qu'on m'ait posé cette question. Je réfléchis en même temps parce que c'est la première fois qu'on me la pose, mais non, je ne crois pas qu'on se soit très inquiété. Non.
Prends soin de toi, fais attention à toi.
Hein. Oui, c'est ça, protège-toi et donc ne parle pas.
Ferme ta gueule.
Oui, c'est ça.
Pour ton bien, parce que je te veux c'est du ça. Bien, oui. Surtout tu l'ouvres pas. Hein.
C'est ça. Mais ça, combien de femmes entendent ça partout, dans les entreprises, les associations, les familles, dans les familles? Combien de femmes entendent, oh non, écoute, c'est l'oncle, c'est le grand-père, c'est je sais pas qui. Non, mais ne dis rien. Ne dis rien, c'est mieux pour la famille.
Tu risques d'éclater la famille.
Ouais,
comme là, tu risques d'éclater la famille politique.
Tu vas faire du mal. Pardon, mais c'est nous qui avons eu mal.
Ça, vous connaissez ça, finalement, c'est pour la famille. Voilà, la famille, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, pour la famille.
Exactement. Donc, c'est toujours la même rengaine. Oui, de toute façon, prends sur toi. Et puis, si on voit vraiment que cette femme persiste parce qu'il y a une véritable souffrance et parce qu'elle a été il y a eu une infraction psychique et corporelle, eh ben on finit par sortir la carte. Oui, mais pense à ta carrière, tu risques de perdre ton poste, et comment tu feras après. Donc effectivement, on présente des éléments à cette femme qui finissent par la faire réfléchir sur d'autres données, alors qu'il y a une donnée importante qui est celle d'avoir été agressée. Donc voilà, et ça donne, je le redis, cette idée en fait à l'agresseur qu'il est tout puissant, voilà, qu'il est fort et que de toute façon, quoi qu'il arrive, la victime ne parlera pas.
Il y a une chose qui est importante aussi de dire, c'est que moi je voudrais vraiment lancer un appel aux hommes, et ce livre est aussi un appel aux hommes, c'est un appel aux femmes mais aussi aux hommes, pour leur dire, mais il faut que vous-même vous désolidarisiez des hommes qui ont ces comportements. Quand une femme se fait voler son sac à main dans la rue par un homme, tous les hommes disent c'est scandaleux, va porter plainte, évidemment. Personne ne met en cause sa parole, personne ne dit mais pourquoi tu t'es fait voler ton sac, personne ne lui dit ce sac il est rouge, évidemment qu'il a tiré l'œil, t'aurais pas dû prendre un sac rouge, personne ne dit ça. Donc sur les agressions sexuelles et le viol, il faut vraiment aller dans le même sens, c'est-à-dire de dire oui, tu dois porter plainte, évidemment que tu n'es pas responsable d'aucune manière de ce qui s'est passé.
C'est déjà, faut commencer par là. Vous n'êtes pas responsable.
Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé, quelle que soit la manière dont vous vous comportiez à ce moment-là. Enfin, ça, il faut vraiment le clamer. Ça n'est pas une paire de talons, ça n'est pas une jupe, ça n'est pas un... tout cela n'a rien à voir et vous pouviez aussi être amie avec quelqu'un et pour autant vous n'avez pas donné votre accord à une relation sexuelle ou à une agression sexuelle. Enfin, il faut vraiment déculpabiliser les femmes et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour qu'elles lisent aussi ça et pour qu'elles sentent que elles n'ont pas à culpabiliser de ce qui leur est arrivé, parce que c'est très puissant ça aussi. On arrive toujours à se questionner sur qu'est-ce qui dans notre comportement à nous les femmes a généré ça. Or ça, il faut vraiment se sortir ça de la tête, vraiment.
Mais est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée pour vous-même?
La preuve en est que, par exemple, j'ai changé ma manière de m'habiller après. Et ça, j'ai mis une tenue tous les jours qui était beaucoup plus stricte qu'avant, ouais. Parce que
j'étais bien en mec, quoi, en femme politique.
C'est ça, ça me permettait de mettre une distance avec les gens, ce qui est un problème d'ailleurs, parce que quand on est une femme politique, mettre de la distance, les gens ne nous reçoivent pas forcément de la même manière. Mais j'ai fait ça pour éviter qu'on retouche mon corps, en fait, puisque je ne voulais.
C'était
pas
votre uniforme, en fait.
C'est ça.
Ouais. Vous dites dans l'armure, une sorte d'armure. Je me suis habillée en Angela Merkel.
Oui, parce qu'Angela Merkel a toujours un pantalon et une veste, et je pense que c'est une sorte d'uniforme qui en fait n'attire pas ni le regard ni les remarques.
Juste une chose, je voulais, quand j'ai parlé de la tribune tout à l'heure, là où je voulais en venir, c'était pour dire quid d'une tribune d'une cinquantaine d'hommes politiques qui réagissent.
Il y en avait deux, non? Il n'y avait pas deux hommes politiques dans cette tribune.
Il y a deux hommes politiques qui auraient réagi. Non, mais d'une tribune, oui, qui serait écrite que par des hommes politiques et qui se positionnent sur cette discussion.
Ouais, ça, ce serait bien.
Parce que c'est un problème.
Prenez votre téléphone, 40 63 6000. Vous êtes plein de nouveaux députés, Nadia. Allez-y, vous prenez le listing et puis allez-y.
Non, mais c'est vraiment effectivement un silence assourdissant. C'est inadmissible.
Sandrine Rousseau est notre invitée. Le livre s'appelle Parler, c'est son histoire, aux éditions Flammarion. Vous êtes bien sûr, elle est bienvenue si vous voulez rejoindre la conversation ou témoigner, 01 53 48 3000.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
On parle des violences sexuelles faites aux femmes aujourd'hui avec notre invitée Sandrine Rousseau qui vient parler de Parler. Parler, c'est le titre de ce témoignage qui sort demain aux éditions Flammarion et dont on parle beaucoup. Nadia.
Alors oui, moi je vous invite à lire un article qui est sorti en 2016 donc dans l'Express où il est fait question justement du long.
Déjà on apprend que vous lisez l'Express.
D'une longue succession d'affaires d'hommes politiques, voilà, de différents courants. Il y en a beaucoup plus, hein, là, on nous en cite 6 ou 7. Mais bon, ça montre bien que c'est quelque chose qui préexiste à cette affaire. Qui donne, une fois de plus, cette idée, finalement, que ces hommes politiques ont le droit de se comporter envers leurs collègues femmes, comme ils le sentent, Enfin, voilà.
Mais enfin, la question que je me pose par rapport à ce que vous dites, est-ce que les lieux de pouvoir sont plus propices, Sandrine Rousseau, à des agressions sexuelles ou pas? Ou c'est pareil, exactement de la même façon dans la société? Ou au contraire, au contact de gens de pouvoir, c'est encore plus, la chape de plomb est encore plus pesante?
Je pense que dans les entreprises, le pouvoir hiérarchique fait aussi ça. Enfin, il y a des hommes dans la hiérarchie qui le font. Ces agressions et ce viol et ce harcèlement, ce sont des actes de domination. C'est-à-dire qu'on estime que son plaisir à soi, son envie à soi est supérieur à celui ou celle qui est en face. Et du coup, on ne prend pas compte. On ne tient pas compte du désir ou pas de la personne d'en face. Ça, c'est un acte de domination. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on prend le pouvoir sur le corps de quelqu'un. Or, mon corps et le corps de toutes les femmes n'appartient qu'à nous. Il n'appartient qu'à nous de savoir ce que l'on veut en faire de notre corps. Et personne d'autre ne peut décider à notre place si on a envie ou pas envie. Donc, dans les sphères de pouvoir, dès qu'il y a domination, il y a sans doute plus de cas. Ceci dit, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup dans la société, un peu partout, et ça n'est pas réservé à la sphère
politique. Le pouvoir, voilà, n'aggrave pas les choses. Fatima, bienvenue.
Bonjour, bonjour Philippe, bonjour à vos invités.
Bonjour Fatih.
Et moi, je voudrais poser une question à Madame Rousseau.
Oui.
Ne pense-t-elle pas que c'est une manière pour certaines femmes de se laisser faire et pour soit une promotion, soit pour autre chose, soit quelque chose? Et quand ça marche pas et ça, c'est-à-dire que y a après ça marche pas quoi. Il crie au viol. D'ailleurs, la preuve en ce qui concerne les politiques, hein. Et donc toutes ces liaisons, ces mariages et tout entre eux, ah il s'est marié avec sa collaboratrice, il fait ceci et tout. D'ailleurs moi je les vois des fois parce que je m'intéresse un peu à la politique. Des fois je vois certaines, on dirait pas qu'elles viennent pour travailler, c'est de véritables pin-up, aller voir devant. Il y a pas une moche, il y a pas une bossue, il y a pas une handicapée. Et donc c'est aussi pas tout à fait une provocation.
Mais Fatima, est-ce que vous êtes en train de nous dire que elles l'ont bien cherché? C'est ça que vous nous dites?
Non, c'est pas la même chose.
Non.
C'est pas qu'elles l'ont bien cherché. C'est-à-dire, je dis que des fois, elles le font exprès avec certains hommes faibles, parce que tous les hommes ne sont pas... même des fois, il y a des hommes... moi, je connais autour de moi, même s'il y a une poupée qui tourne autour d'eux, ça leur dit rien parce qu'ils sont mariés, ils sont ceci, cela. Mais il y a d'autres qui sont faibles. Et donc, quand on les provoque et tout, donc ça marche. Et quand la femme voit que qu'elle n'est pas arrivée à ce qu'elle voulait, promotion, surtout dans le domaine politique, hein, parce que ça se saurait. Mmh. Et donc, moi, je pense que quand il y a un viol, on ne parle pas 10 ans après, parce qu'on dit, ah, on a voulu garder notre place. Non, quand on a une fierté, quand il y a un problème, eh ben, même si je perds ma place, je m'en fous. Mais s'il y a un problème comme ça, eh ben, il faut le dénoncer.
Par contre, Fatima, j'ai une question. Si l'enquête révèle après qu'il y a d'autres femmes qui sont concernées et qu'elles sont nombreuses?
Ah non, je ne dis pas que toutes les femmes se comportent de cette manière-là.
D'accord.
Mais je dis que la plupart, je pense, se comportent de cette manière-là. Et en plus, dans le cas d'Écologie Les Verts, je crois si elle parle de l'affaire d'Écologie Les Verts, moi je pense qu'on ne reste pas 10 ans après pour dénoncer ça. Il fallait le dénoncer tout de suite.
Alors, c'est important ce que vous dites, Fatima, parce qu'à travers votre question, il y a des questions que des gens se sont posées, et Sandrine Rousseau, auxquelles vous avez été amenée de répondre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Fatima?
Pas mal de choses. La première, c'est que les femmes ne parlent pas parce qu'elles ne peuvent pas le faire. Enfin, il faut bien comprendre ça, c'est que elles n'ont pas la possibilité de le faire et d'être entendues. Par ailleurs, on accuse beaucoup les femmes de mentir sur ces questions-là. Il faut savoir que toutes les études montrent que sur 100 personnes qui dénoncent des situations d'agression ou de viol, il y en a 2 qui, en effet, ont raconté des
histoires.
Fabule. Mmh. Ça veut dire qu'il y en a quand même 98 qui sont vrais. Donc moi, je prends le parti de dire que dès qu'une femme me raconte quelque chose, et il y a beaucoup de femmes qui se tournent vers moi aujourd'hui pour me raconter leur histoire, elle dit la vérité parce que c'est le cas, c'est l'immense, immense majorité des cas. Et donc, il faut croire les femmes parce que les femmes, dire que les femmes sont menteuses, c'est mettre le doute sur la parole de toutes. Quand on dit qu'il y en a une qui a fait ça, je ne sais pas pour quelle intention, on met le doute sur la parole de toutes. Or, il y a quand même, il faut entendre aussi qu'il y a des vies complètement brisées par ça. Des femmes qui ont été violées, on les retrouve 20 ans après, elles sont encore dans une souffrance inouïe. La plupart n'osent pas parler précisément parce qu'elles ont peur d'être traitées de menteuses, comme on l'entend là. Et c'est un facteur vraiment très fort pour les faire taire. Et ça, pour moi, c'est inacceptable parce que, il faudrait vraiment ouvrir ce couvercle-là, laisser les femmes parler. Et vous verriez à quel point leur vie peut être complètement détruite par des actes comme ça. C'est pas toutes, il y en a beaucoup qui s'en sortent et c'est bien, mais il y a aussi des femmes qui sont complètement détruites et on ne peut pas laisser faire ça au nom d'une supposée d'une supposée provocation de la femme, ce qui n'existe pas.
Ce qu'a dit Fatia juste avant, c'est
Fatima.
C'est juste symptomatique de notre société. C'est-à-dire effectivement cette femme qui est ultra, extra, supra diabolisée, cette femme qui est la source de tous les maux. C'est-à-dire que Alors bien entendu, on met pas tous les hommes dans le même paquet. Bien entendu, tous les hommes ne sont pas des agresseurs. Bien évidemment.
Heureusement.
Enfin, même la majeure partie des hommes ne le sont pas du tout.
Exactement.
Hein. Bon,
exactement.
Voilà, donc, faut être clair.
Au même titre que toutes les femmes ne sont pas des affabulatrices. C'est, donc ce que dit Fatima, c'est vraiment symptomatique de notre société. C'est-à-dire que de toute façon, la femme, il y a une agression, d'ailleurs, vous le dites très bien, Sandrine Rousseau, dans votre livre, vous dites effectivement que une des questions qui a été posée par donc lors de l'audition par le
capitaine Flamme.
Effectivement,
que je salue.
Voilà.
Je chante ou pas
car... La dernière question qu'il a posée, c'est et comment étiez-vous habillée ce jour-là? Oui, soit et alors.
C'est une des premières questions qu'il a posées. Oui.
Oui. La première question qu'il vous a posée. Non, mais vous trouvez ça normal de demander à la femme, dans le cadre d'une agression sexuelle, comment elle est habillée? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Comment elle est habillée? C'est remettez les projecteurs ou la lampe du commissaire sur l'agresseur et pas sur la victime. Donc ça, c'est une chose. Autre chose, Fatima, vous oubliez une donnée importante. Donc dans le cadre d'une agression sexuelle ou d'un viol, il faut savoir qu'il y a un mécanisme psychique qui se passe chez certaines patientes, qui est, donc ça a été développé, on en a parlé avec le docteur Guérin, qui était venu lors d'une émission sur la violence faite aux femmes, et qui est donc cette amnésie post-traumatique. Donc il y a des femmes, parce que c'est un mécanisme de survie, alors on ne va pas rentrer dans les mécanismes biologiques, mais grosso modo, le cerveau fait en sorte que cet événement-là, en fait, est mis de côté, et donc c'est effectivement, ça peut expliquer le fait, ça explique le fait que des patientes, que des victimes mettent des années avant de pouvoir parler, et d'ailleurs on le voit avec l'affaire de Flavie Flamand, qui parle que des années plus tard. Alors c'est là où on voit ça pose le problème justement du délai de prescription. Donc il y a un décalage entre le juridique et le réel, parce qu'en fait on ne prend pas en compte cette donnée. Donc ne nous questionnons pas bêtement sur pourquoi ces femmes ne parlent pas maintenant, et c'est pas une question de fierté. Vous avez des femmes qui ont une assertivité personnelle et qui ont pourtant été agressées par des hommes. Donc renversons pas la vapeur.
Ceci dit, on est en espace d'expression, Nadia. Hein.
Questionnement légitime.
Voilà, le questionnement de Fatima est un questionnement qu'elle peut amener. Hein,
tout à fait, mais
voilà.
Je vous dis, il est symptomatique de notre société.
Non, mais c'est même bien qu'on l'entende pour pouvoir aussi y répondre. Et les psychiatres et les médecins disent que les agressions sexuelles et les viols ont des conséquences sur la santé des femmes qui sont proches de ceux qu'on constate après des guerres chez les hommes qui sont allés au front. Donc ce sont quand même des traumatismes très lourds et on peut estimer que ces femmes sont dignes d'être écoutées pour leur souffrance. France et pour ce qu'elles ont traversé.
Vous le disiez tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on le partage, Nadia, pour tous ceux qui nous écoutent et pour tous les hommes, effectivement, qui sont au courant de ce qui se passe ou qui ont un collègue qui est un dragueur lourd, parce qu'on dit aussi dragueur lourd, hein, que se taire, c'est cautionner.
Oui.
C'est être complice. C'est ça.
Donc se taire, c'est effectivement cautionner, parce que à un moment donné, en fait,
faut pas valoriser.
Ça met en lumière la problématique du consentement. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il devient lourd, ce gars? C'est quand la femme qui est en face lui dit, écoute, stop, moi ça m'amuse plus. Ça ne m'amuse plus parce que là, tu me déranges, tu me gênes. À partir de ce moment-là, il faut que les gens aux alentours réagissent. Si après, elle rigole et on rentre dans le jeu, machin, bon, là, elle peut très bien envoyer un message là que bon, là, je rigole, mais c'est pas parce qu'elle elle rit de sa blague là aujourd'hui que demain, ça va pas l'agacer. Donc, à un moment donné, il faut prendre aussi cette donnée-là en compte. C'est quand la personne exprime une gêne, un agacement, même comportemental, parce qu'on n'a pas toutes forcément... la force à ce moment-là de dire, parce qu'il y a aussi des enjeux hiérarchiques, on l'a dit, de pouvoir dire à ce moment-là, oui, voilà, là, ça me gêne, enfin, je trouve que c'est décalé, je trouve que c'est déplacé. Donc, effectivement, se taire, c'est consentir à indirectement à ce qui se passe et c'est cautionner.
C'est protéger les personnes, les hommes agresseurs et violeurs, et ça il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire que ce dont on s'aperçoit, c'est que les hommes qui l'ont fait en général le refont s'ils ont un sentiment d'impunité. Donc ne pas parler, c'est mettre en danger la vie d'autres femmes. Donc c'est vraiment important de le mettre sur la place, et j'espère vraiment que le livre permettra aussi de dire aux femmes, mais tout ce que vous avez ressenti, n'ayez pas peur de le ressentir, parce que on passe toutes par là, c'est vraiment un processus normal, et donc venez en parler, on est là, et offrez-le à des personnes qui peuvent être concernées, parce que parler soulage, et parler permet vraiment aussi de sortir la tête haute et de pouvoir se reconstruire complètement. Donc voilà. Osons la parole.
Bien, et on en parle jusqu'à 13h, violence sexuelle, pour en finir avec la loi du silence. Vous écrivez Parler, Sandrine Rousseau, c'était aux éditions Flammarion, 01 53 48 3000, si comme Fatima aussi, vous voulez réagir à l'émission.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Sandrine Rousseau est avec nous pour parler de son livre Parler, que Nadia a vous montré, puisqu'on est en train de filmer en même temps, aux éditions Flammarion. Sarah nous appelle de Toulouse. Sarah, bienvenue.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Excusez-moi, je prends votre émission en cours, donc j'ai pas trop suivi depuis le début. J'ai juste entendu le témoignage, le questionnement de la personne précédente, et je voulais réagir. Et je voulais simplement dire à cette personne, par rapport au temps qu'on laisse passer entre le moment où il y a l'acte et le moment où on témoigne, que c'est assez difficile. J'ai été victime d'attouchement quand j'étais plus jeune. J'avais 13 ans. Et je n'ai jamais parlé de ce qui s'était passé à personne. J'étais accompagnée de mon petit frère ce jour-là, et je marchais dans la rue tout simplement, et puis un monsieur qui passait par là m'a touché les seins. Voilà. Et mon petit frère était là, il m'a posé la question, m'a demandé... Bon, j'ai nié tout de suite. Il y avait mon petit frère et j'ai nié. J'ai dit non, il ne s'est rien passé, je ne sais pas ce qu'il voulait. Et j'ai complètement effacé ce passage. Il y a que quelques temps que c'est revenu à ma mémoire, en fait. C'est en écoutant des témoignages que, voilà. Et puis aujourd'hui, voilà, je voulais simplement dire à cette personne, voilà, on peut oublier, on peut avoir, se sentir coupable. C'est ce qui fait qu'on n'en parle pas, qu'on ne témoigne pas, qu'on ne porte pas plainte. Et si aujourd'hui j'avais la possibilité de savoir qui était, je sais pas qui était cette personne, si j'avais la possibilité de savoir qui était cette personne, je pense que j'irais porter plainte.
Merci Sarah pour ce témoignage.
Je vous remercie pour votre émission.
Merci Sarah. Alors effectivement.
Et c'est des gens comme vous qui font avancer les choses, en fait. Et je vous remercie beaucoup pour la qualité de vos émissions. Les invités, sont à la hauteur. Voilà.
Merci de nous prêter vos oreilles, Sarah, en tout cas. Merci de votre témoignage
beaucoup.
Et de la confiance que vous nous avez témoigné justement en parlant aujourd'hui. Alors, j'aimerais, Nadia, si vous voulez bien, qu'on définisse, parce que les agressions sexuelles, ça commence où, pour que tout le monde, ce soit clair pour tout le monde?
En fait, effectivement, dans le droit, il y a une différence entre les agressions sexuelles et le viol. On en avait déjà parlé lors de d'autres émissions sur le sujet. Déjà, au niveau de la sanction, ce n'est pas traité au même endroit. Le viol, c'était considéré comme un crime, donc c'est jugé aux assises. Et les agressions sexuelles sont considérées comme un délit et donc sont jugées en correctionnel. Voilà. Alors, l'agression sexuelle, là, moi où ça m'intéresse, c'est pas. Alors, il y a la définition bien sûr juridique, mais ce qu'on omet souvent de dire concernant l'agression sexuelle, c'est que si une personne vient au contact de votre corps alors que vous n'êtes pas consentant, c'est une agression sexuelle. C'est pas forcément le terme de sexuel peut induire des personnes en erreur parce qu'en fait on pense que c'est uniquement la sphère génitale qui est concernée. Non, il n'y a pas que la sphère génitale qui est concernée. À partir du moment où on atteint à notre corps, à notre dignité psychique et physique, ça rentre dans l'agression sexuelle. Le harcèlement, on en a parlé avec l'association AVFT qu'on avait invitée et dont...
vous parlez dans votre livre.
Marilyn Balzec, c'est une association qui fait un très gros travail. Ouais.
Exactement, ça rentre dans les agressions sexuelles. Alors, après, juridiquement parlant, effectivement, les peines ne sont pas les mêmes. Les délais de prescription également ne sont pas les mêmes. Par exemple, pour l'agression sexuelle, jusqu'à février dernier, donc 2017, il y avait un délai de prescription de 3 ans. De l'événement en question. Depuis cette loi, en fait, le temps a été doublé. Pour les agressions sexuelles chez les personnes non mineures. C'est-à-dire qu'on est passé de 3 ans à 6 ans. Moi, à mon sens, et je vais donner la parole à Sandrine Rousseau, à mon sens, ce n'est pas suffisant. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que pour moi, il ne devrait pas y avoir de délai de prescription. Parce que ça voudrait dire, en fait, que finalement, on a estimé scientifiquement, et ce qui n'est pas vrai, que une femme aurait besoin de 6 ans pour pouvoir parler, pour pouvoir porter plainte. C'est pour moi une aberration.
Déjà, qu'il soit passé de 3 ans à 6 ans, c'est déjà pas mal, parce que 3 ans, c'était vraiment très très court. Imaginez bien que si vous dénoncez quelqu'un qui est votre supérieur hiérarchique, il faut que vous puissiez trouver un autre travail. La plupart des femmes quittent leur travail après avoir porté plainte pour
ça. Ça a des conséquences.
Donc, il faut le temps de retrouver un travail, de se réinstaller, d'avoir une nouvelle vie pour pouvoir avoir la force de déposer plainte. Donc, 3 ans, c'était très court. 6 ans, c'est un peu mieux. C'est vrai que la question de la prescription, c'est une question sensible, parce que il y a tout le traumatisme engendre tout un tas de comportements après et qui peuvent être très longs à se décanter pour avoir la force de porter plainte. Donc moi je serais d'avis qu'on regarde cette question de la prescription de très près et qu'on fasse un groupe de travail pour savoir comment faire en sorte que la prescription soit adaptée au crime qui est commis et qui est le viol. Je voudrais aussi dire une chose qu'on n'a pas dite et qui me semble important, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne parlent pas de ce qu'elles ont subi au motif que l'homme qui a commis ça est un homme bien sous tout rapport et les femmes disent personne ne me croira si je le dis. Alors ça il faut vraiment sortir aussi de ce schéma là et donc venez à l'association parler, nous on vous croira parce qu'on croit les femmes quand elles parlent de cela et en effet les rares hommes, parce que c'est pas la majorité, les hommes qui sont coupables de viol ou d'agression ont aussi des stratégies pour devenir inattaquables, c'est-à-dire des stratégies où ils deviennent très sympathiques, où ils sont très sympathiques avec d'autres femmes, où ils apparaissent comme les défenseurs du droit d'autres femmes, et ça c'est une stratégie qui est aussi connue et donc n'ayez pas peur que que la personne qui a commis ça sur vous ait cette stratégie-là, parce que c'est une stratégie qui est connue aussi là, et donc venez en parler parce qu'on a besoin de s'en parler.
Ce qui les rend d'ailleurs effectivement difficilement attaquables, parce qu'on en avait parlé également dans une autre émission, j'avais donné les profils des agresseurs harceleurs. J'avais dit qu'en général, c'est un homme plutôt banal, beau parleur, sûr de lui, voilà, qui considère, en règle générale, les femmes, et en particulier celles qui sont sous ses ordres, comme des objets de consommation. Donc, vous avez le profil... Alors, il y a celui qui... Bon, si ça marche, tant mieux, et sinon, je passe à quelqu'un d'autre. Donc
c'est le zappeur.
Un peu le zappeur, si vous voulez. Donc celui-ci, en règle générale, il passe justement à travers les mailles du filet. Ensuite, vous avez le pervers prédateur. Donc celui qui ne lâchera jamais sa proie jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins. Oui, jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins. Et puis vous avez entre grosses guillemets les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui agissent en groupe et qui finalement vont pour prouver leur virilité aux collègues, aux copains, harceler comme ça de façon enfin impunément. Donc oui, c'est ce que dit Sandrine Rousseau est important parce que effectivement la société ne voit que le comportement de l'agresseur, ne voit que son comportement social, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est vu et perçu par les autres. Et en réalité, quand on dévoile une autre de ses faces, bah, du coup, on paraît pas du tout crédible.
On parle des répercussions, en tout cas psychiques, sur la victime. Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on se reconstruit après ça, Nadia?
Oui. Juste avant de parler de ça, juste dire que les harceleurs et les agresseurs, ce qu'ils ont de commun, c'est quand même cette volonté d'affirmer leur domination vis-à-vis de leurs victimes d'avilir en fait, d'humilier leurs victimes pour que justement elles ne puissent pas parler.
Et enfin, juste un mot pour dire qu'il n'y a pas de honte à être sous emprise de quelqu'un. Il n'y a pas de honte à être sous emprise. Vraiment, si vous êtes sous emprise de quelqu'un qui vous fait du mal, il n'y a pas de honte à cela. Ce n'est pas de votre faute à vous. Donc vraiment, par contre, vous pouvez vous libérer en commençant à parler. Donc venez, rapprochez-vous des associations et vous verrez que se libérer d'une emprise, c'est aussi un très grand bonheur dans la vie.
Tout à fait. Parce que l'agression sexuelle, il faut savoir quand même que c'est un problème de santé publique parce que les conséquences premières sont celles de la victime, mais il y a des conséquences collatérales, enfin tout autour. Il y a la famille qui en prend un coup, il y a l'entourage, les proches, et donc si vous agrandissez le cercle, c'est la société.
Ah, vous racontez dans votre livre que beaucoup vous ont dit mais tu penses à sa femme et à ses enfants.
Oui.
Et certains ont pensé à votre compagnon, à vos enfants, enfin, à votre mari.
Ce que vous dites, c'est en pensant à la
femme de l'agresseur et à ses enfants.
Et pas à ceux de la
victime. Et pas aux vôtres.
Oui. Bah, c'est la poursuite du processus de culpabilisation. C'est-à-dire, t'as pensé quand même, là, il est assez puni. Oui, enfin après la question c'est comment je protège moi aussi mes enfants, comment on laisse à nos filles un monde où elles se sentent en sécurité et où elles n'ont pas peur, c'est une question qui pour moi est très importante et parce que père comme mère, on n'a pas envie que nos filles soient exposées à ça. Donc parler et aller jusqu'au bout, c'est aussi permettre à nos enfants d'avoir un monde où les femmes seront plus respectées. Et donc, où tout le monde vivra plus en paix et où aussi les hommes n'auront pas à subir les conséquences de ça, parce que ça on le dit peu, mais quand un père a une fille qui subit ça, il en subit les conséquences. Quand un mari a une femme qui subit ça, il en subit les conséquences lui-même. Enfin, c'est pas quelque chose qui est réservé aux femmes. C'est la sphère de souffrance, quelque part, elle est beaucoup plus grande que simplement les femmes qui l'ont vécu. Donc, il faut faire progresser la société, c'est un peu un devoir, et donc il faut qu'on parle, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre.
Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'agression sexuelle, elle blesse la partie la plus intime de la victime, et là en l'occurrence de la femme, de son corps, de son esprit, de sa relation à elle-même et de sa relation aux autres. Donc il faut vraiment prendre la mesure de ça, et ce n'est pas léger.
Sandrine Rousseau, votre livre s'appelle « Parler » aux éditions Flammarion. On n'a pas évoqué les répercussions que ça avait eu sur votre vie, Nadia, mais effectivement, ça a des répercussions sur la vie des victimes. Vous avez été bouleversée par le livre, Nadia.
Oui, moi j'ai été bouleversée par le livre parce qu'en fait, en tant que femme, on ne peut pas rester insensible à cette... À la souffrance d'une autre femme, tout d'abord, et puis tout simplement à l'impunité comme ça qui continue à sévir, et puis finalement c'est passé, allez, c'est une affaire comme une autre et on passe à autre chose. Et donc c'est pour ça que je remercie également Sandrine Rousseau pour ce livre, parce que effectivement les personnes qui sont profondément humains et pas que féministes mais surtout humains ne peuvent que être touchés par ce livre.
Merci Sandrine Rousseau d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup à vous.
Et vous êtes arrêtée sur Beurre FM demain. Et si on vivait sans frigo ? On en parlera demain puisque c'est la nouvelle tendance, vivre sans frigo pour manger local et manger les produits de saison. Merci d'avoir été avec nous. Très belle journée sur Beurre FM.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM.